dans le rétro.
Bienvenue dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grünwald.
Salut à tous, bienvenue sur France Bleu. Chaque semaine, on se fait un petit voyage dans le temps qui vous permet de découvrir des personnalités, peut-être sous un nouveau jour. C'est en évoquant leur passé, c'est en retraçant leur vie, que l'on comprend ce qu'ils sont devenus, que l'on comprend leur travail, leurs actions, leurs échecs, leurs réussites. Aujourd'hui, écrivaine et femme politique, nous sommes avec la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre la discrimination, c'est long comme titre. Bonjour Marlène Schiappa. Mardi 3 septembre, 80 personnes se sont réunies pour le Grenelle des violences conjugales. En 2018, 121 femmes tuées, 101 depuis le début de l'année. Pourquoi on met autant de temps pour agir? Parce que le numéro de téléphone, j'ai vu, existe quand même depuis 1992.
Exactement, mais en fait, 19. Bien sûr, la question que vous posez, elle est centrale pour moi dans l'action politique. C'est-à-dire, très souvent, les responsables politiques se contentent de faire des choses et d'envoyer sans se préoccuper de la manière dont c'est reçu. Là, typiquement, sur le téléphone, il existe, c'est fait, check, et on le raye sur la to-do list. Moi, j'arrive, je vois d'abord que 100% des appels ne sont pas pris. Donc, première chose, j'augmente les moyens en donnant un objectif, en disant, voilà, moi, je vous embauche de nouvelles écoutantes, mais je veux que 100% des appels soient répondus. Si ce numéro existe, mais que personne ne sait qu'il existe, personne ne s'en saisit et ça sert à rien. C'est pour ça que je communique autant sur ce numéro.
On vous reproche d'ailleurs la communication, bien évidemment.
Oui, mais moi, si vous voulez, quand je vois explosion des appels au 3919 suite à la communication de Marlène Schiappa, je me dis, tous ceux qui nous reprochent de trop communiquer sont bien ignares de la réalité de la détresse des femmes victimes de violences conjugales qui ont besoin qu'on parle d'elles et surtout besoin qu'on les protège.
3919, c'est le numéro à retenir, à partager aussi. Chacun d'entre nous peut contribuer à aider les victimes de violences conjugales. Un numéro aussi bien pour les femmes que pour les hommes, on est d'accord là-dessus, non? Ou c'est que pour les femmes?
Alors c'est un numéro qui est dédié aux femmes.
Et les hommes du coup peuvent pas appeler parce qu'il y a aussi des hommes...
Absolument, et ça on est en train de travailler. Ah ouais. Il y a des hommes, ouais bien sûr, parce que moi c'est quelque chose qui me révolte. Dans mon entourage, j'ai des amis en fait, hommes, qui m'ont confié avoir été victimes de violences sexuelles, notamment quand ils étaient petits. Et ça m'a toujours révoltée de voir à quel point il n'y avait rien pour les accompagner. Mais vous savez, la grande difficulté qu'on a sur ce sujet, parce que ça fait plus d'un an maintenant que j'y travaille, moi je voulais trouver une personnalité homme qui accepte de porter ce combat. Et j'ai rencontré plusieurs personnalités, des comédiens, des artistes qui ont une forte notoriété, dont je savais qu'ils avaient été victimes eux-mêmes de violences sexuelles ou de viols ou de violences conjugales. Ils ont tous refusé pour des raisons que je peux comprendre. Hein. Chacun a son image, son propre rapport avec ce qu'il a vécu. Mais à date, je n'ai pas trouvé un homme qui accepte de porter ce combat-là et d'en être la figure de proue pour qu'on renvoie vers un site, un numéro, des professionnels.
Marlène Schiappa, pour certains, vous êtes une femme déterminée qui veut réussir ses missions au sein du gouvernement. Et pour d'autres, vous êtes une emmerdeuse.
Ça va avec, non?
Ouais, vous croyez?
Ouais, je crois. Ouais.
Est-ce que les féministes sont des emmerdeuses?
Alors moi, j'en sais rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas par plaisir. C'est-à-dire que je me réveille pas le matin en me disant « qui je vais emmerder aujourd'hui ?» Mais quand j'arrive dans une réunion et que je vois, par exemple, quand je vois un programme de conférence et que je vois qu'il y a plein d'hommes et zéro femme, je soupire et je me dis « et voilà, c'est encore à moi d'être la féministe de service et de râler. » Et on va dire « ah, Marlène, qu'est-ce qu'elle nous emmerde avec ces femmes, etc. »
Et ça vous gonfle?
C'est pas tant d'avoir ce rôle-là, c'est que je me dis quand même, ça pourrait être une conviction qui serait un peu plus partagée que ça. Parfois, j'entends dire l'égalité femmes-hommes, c'est un combat consensuel. Mais non, ça l'est pas. Genre, il y a des centaines de milliers de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles par an en France. Ça veut dire qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont envie de continuer à harceler les femmes et qui, quand ils m'entendent, disent « oh non, celle qui veut nous emmerder et nous empêcher de harceler les femmes ». Bah ouais, les gars, ouais.
Ça fait partie de votre fonction.
C'est ça, c'est le job. Je suis un peu payée pour ça.
Marlène Schiappa, je vous propose de démarrer notre voyage dans le temps. C'est parti. « 18 novembre 1982, vous naissez à Paris. Votre père Jean-Marc est historien et trotskiste. Votre mère Catherine est instite, puis proviseur. Marlène, enfant et ado rebelle. »
Un peu. Alors mon père, quand je suis née, il n'était pas historien, il était employé à la CAF. Je précise parce que souvent quand je dis que j'ai eu une enfance modeste, on me dit « ah c'est pas vrai, son père est historien, sa mère est proviseur, donc on s'imagine des grands apparts sur les quais de Seine ». C'est pas du tout
le cas.
J'ai grandi dans des cités HLM et rebelle, j'en sais rien. Moi je fais le constat que moi j'étais beaucoup plus sage que mes enfants quand j'étais petite. Et mon père me dit « ouais c'est vrai en fait, je pense qu'enfant j'étais assez facile ». Moi par exemple, je fume pas, je bois pas d'alcool, j'allais pas en boîte, je suis allée en boîte pour la première fois, j'étais déjà mère de famille. Moi j'ai commencé à travailler à 17 ans.
Donc, mariée à 19, j'ai vu aussi.
Tout à fait.
Avec un mec de droite, comment il réagit votre père à ce moment-là?
Mon père, il me laisse hyper libre. Et mon père, c'est un vrai féministe. Et je sais qu'on on le décrit souvent dans les portraits. On me dit, vous avez un père trotskiste, corse, oh là là. Mon père, c'est quelqu'un d'adorable, qui nous a élevés avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et qui nous a toujours dit de faire nos propres choix. Quand j'ai voulu marier, il m'a dit, oh, tu fais une connerie. Moi qui suis mariée plusieurs fois, je te le dis, mais tu fais ce que tu veux. Et il est venu à mon mariage et il était content pour moi.
Ah, il est venu à votre mariage quand même.
Évidemment, bien sûr. Ouais.
Vous êtes la seule du gouvernement à avoir été dans un collège en zone d'éducation prioritaire et à avoir vécu dans une cité HLM. Vous avez été, vous, confrontée à la violence? Vous avez été agressée?
Oui, bien sûr. Alors, agressée en cité, pas vraiment agressée physiquement. Et ensuite, adolescente, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'adolescente, avec ma sœur, on guette par la fenêtre les bandes de gars en bas pour savoir est-ce qu'ils vont nous suivre, nous siffler, nous empêcher de passer.
Vous aviez peur?
On n'avait pas peur, c'était plus relou en fait. Ça veut dire qu'avant de sortir, il faut établir une stratégie pour se dire par quelle sortie on passe, qui on évite, est-ce qu'on répond ou pas, est-ce qu'on fait semblant d'avoir pas entendu, ça c'est lourd.
Marlène Schiappa, on revient dans moins de 5 minutes. Restez avec nous sur France Bleu, notre invitée aujourd'hui, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. À tout de suite. Merci de nous rejoindre sur France Bleu. Si vous venez de vous brancher, nous sommes avec la secrétaire d'État Marlène Schiappa.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Accrochez-vous, on se télétransporte à nouveau. Nous sommes en 2007, vous avez 25 ans, nous sommes dans les bureaux du groupe publicitaire Euro-RSCG. Ce sont vos derniers jours, car vous allez démissionner pour créer un an plus tard votre blog Maman Travail, gros carton. Maman Travail deviendra une asso et vous permettra de défendre plusieurs projets pour la conciliation vie professionnelle et maternité. C'est dans cette boîte que vous avez trouvé ce combat à mener?
C'est beaucoup en parlant avec mes collègues de l'époque, dont Isabelle qui avait un bureau en face de moi, Isabelle Vermeer qui est une fabuleuse directrice artistique. Et c'était une maman de 3 filles et j'étais vraiment pleine d'admiration parce qu'elle gérait sa vie de directrice artistique et sa vie engagée dans sa ville, etc. Et sa vie de maman. Ça m'avait l'air hyper compliqué et surtout, j'observais que toutes les femmes dans le bureau avaient l'air de tout le temps passer des coups de fil. Je voyais toutes les femmes
pour
au
les
téléphone.
Gardes.
La nounou, l'enfant malade, la voisine, est-ce que tu peux me dépanner, le rendez-vous chez le pédiatre, tout le temps. Et les hommes, jamais. Et je trouve qu'il y a là une vraie inégalité dans les faits. Et là, c'est pas la loi qui peut la gérer. C'est vraiment comment chaque couple et chaque famille s'organise.
Vous n'avez jamais eu de doute, jamais de remise en question, jamais de faiblesse. On a l'impression que vous êtes extrêmement forte.
Au contraire, moi, je suis une personne qui doute en permanence. Donc, je sais pas pourquoi j'ai cette image de fonceuse, forte, etc. Mais la politique, c'est aussi un milieu où les faiblesses ne sont pas bienvenues. Je pense que c'est un peu comme dans une cour d'école le premier jour, où vous devez vraiment montrer que vous êtes fort, que vous résistez,
etc. C'est dur, ça, au bout d'un moment.
Mais bien sûr, mais c'est hyper dur.
Mais comment vous faites?
La chance que j'ai, moi, c'est d'avoir des gens autour de moi qui sont en train de me soutenir et de prendre soin de moi et de me laisser être Marlène et pas juste Marlène Schiappa qu'on voit à la télé.
Ou l'emmerdeuse.
Aussi.
Je vais vous demander de regarder juste devant vous, il y a une photo. Qui c'est?
C'est Jean-Claude Boulard. C'était le sénateur maire du Mans, c'est lui qui m'a fait entrer en politique et il nous a quittés l'année dernière. Il a eu une maladie.
Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé lui dire? Que justement la politique vous a empêché de lui dire par
plein.
Pudeur
et
Qu'est-ce que vous auriez aimé lui dire?
Des choses. Moi, je suis quelqu'un de très. J'ai l'air comme. Je suis pas du tout pudique, j'ai l'air fonceuse, etc. Mais dans la vie personnelle, dans les sentiments, etc., je suis quelqu'un de très pudique. Je dis jamais. Je suis toujours gênée quand on me fait des compliments, gênée quand on me dit des mots gentils. Et en fait, je me suis rendu compte après sa mort que je lui ai jamais dit tout ce qu'il représentait pour moi. De modèle et toute la gratitude que je pouvais avoir pour tout ce qu'il m'a appris.
En 2016, vous rencontrez Emmanuel Macron en visite au Mans. Il est à ce moment-là ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Il est aussi président depuis peu du mouvement En Marche. Vous serez sa référente sur les questions des droits des femmes. Vous avez 34 ans, je crois, à l'époque, à peu près, c'est ça?
Ouais, 33. 33,
ouais, 33.
34,
ouais, est-ce que votre âge, ça a été un souci?
Pas
à l'époque ou maintenant? Ou même maintenant?
Non, mais il y a un
jamais.
Truc en politique. Je veux dire, là, j'ai 36 ans et j'ai vu encore ce matin quelqu'un qui disait une jeune femme politique. Je me dis, waouh, je suis mère d'une collégienne et on me traite encore de jeune, c'est cool.
Mais
c'est
parce que vous avez un air aussi très juvénile.
J'ai des cheveux blancs. J'ai pas du tout l'air, j'ai pas l'impression. Non, moi, j'ai très souvent été la plus jeune. Comme j'ai commencé à bosser tôt, quand j'ai voulu monter une entreprise, j'avais 26 ans, j'ai commencé à vivre jeune.
Ouais.
Et donc, j'ai toujours été parmi les plus jeunes.
Dans la société, ou en politique, justement, ça trouble pas les messages qu'on a envie de passer?
Je sais pas, mais moi j'ai beaucoup de respect. Il y a eu la phrase de Jean Gabin que j'adore. Quand j'étais jeune, j'avais 20 ans, j'étais qu'un con, je disais je sais, je sais, je sais, et je sais maintenant que je ne sais rien. Et moi je dis tous les matins, il faut remettre le métier sur son ouvrage sur le métier et voilà.
Pourtant, les politiques, on peut leur en vouloir parfois de trop dire je sais.
Mais vous savez, on n'aime pas quand on dit qu'on ne sait pas. Moi, il y a plein de fois, j'ai dit sur des questions, alors, j'en sais rien, on me pose des questions sur la politique agricole commune, ouais. On n'a pas la moindre idée. Ouais. Et je dis, moi, voilà, il y a des sujets sur lesquels j'ai un avis très déterminé et je le partage. C'est assez mal pris, les journalistes, c'est un peu question pour un champion. Vous voulez toujours qu'on ait réponse à tout. Et les gens sont à la fois, ont des attentes très paradoxal vis-à-vis des responsables
Comment
politiques.
Vous le vivez, ça?
Au début,
d'être jugé sur...
Honnêtement, au début, ça m'a beaucoup perturbée. Je lisais des portraits de moi, je me disais « Waouh, mais qui est cette personne ?» Et ce qui me rassure, c'est que j'ai des gens autour de moi qui me connaissent très bien et qui me disent à chaque fois « Waouh, n'importe quoi !» Avec ma famille, on s'amuse à compter les choses fausses qui paraissent dans les articles, à compter les erreurs. Il y a eu un portrait de moi dans un magazine il y a quelques mois de ça, on a compté 17 erreurs. Une journaliste écrit « Elle fut traumatisée par son divorce quand elle était jeune. »
Ah mais ça fait vendre,
ouais,
c'est
pour ça.
Mais
c'est pas vrai, j'en avais tellement rien à faire, enfin c'était pas... On nous invente des ressentis, on nous prête des ambitions aussi. Moi, on me décrit tout le temps comme quelqu'un d'hyper ambitieuse, carriériste, etc.
Alors, vous l'êtes pas ?
Non, franchement, vraiment pas. Je suis ambitieuse pour les projets que je porte. Pour moi-même, non. Mais j'ai eu énormément de chance qui est liée au travail, en fait. Ce qui se passe, c'est que dans ma vie, j'ai toujours énormément travaillé. Et ce travail, il a produit qu'on me propose d'être candidate ici, référente pour un programme là, d'être nommée au gouvernement. Mais c'est vraiment le travail qui a produit ça, avant tout.
Vous êtes maintenant secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme et de la lutte contre les discriminations. L'égalité, c'est la grande cause du quinquennat. Les violences faites aux femmes, le harcèlement. On va en parler dans un instant sur France Bleu. Notre invitée aujourd'hui, Marlène Schiappa. Merci d'être avec nous sur France Bleu. Nous sommes avec la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, Marlène Schiappa, est notre invitée.
Dans le rétro.
Bienvenue. Dans le rétro. Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
On va continuer notre voyage dans le temps télétransportation. Nous sommes le mardi 15 mai 2018 à l'Assemblée nationale. Vous présentez un des articles du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Vous envoyez un message qui est faux aux agresseurs. Vous dites aux agresseurs qu'ils seront désormais moins punis alors que le sens de ce projet de loi, c'est de punir.
Août 2018, la loi Schiappa entre en vigueur. Quelques mois auparavant, il y a eu Balance ton porc. Est-ce que vous trouvez que les choses avancent dans le bon sens ?
Les choses avancent dans le bon sens, ouais.
Il y a des figures du féminisme qui ne se reconnaissent plus dans les mouvements actuels. Je prends l'exemple d'Elisabeth Badinter qui dit qu'on élargit le concept de harcèlement sexuel au point de le confondre avec le flirt.
Je ne suis pas d'accord avec elle parce que moi je crois qu'on fait la différence. À partir du moment où vous êtes consentante, tout est permis. On se moque un peu de ci ou ça sur la loi anti-fessée. Il y a des gens qui se sont moqués en disant « Ah, ça veut dire qu'on ne pourra plus se donner la fessée, etc. » Que chacun fasse absolument ce qu'il veut sans limite. À partir du moment où il y a deux conditions qui sont réunies, un, vous êtes adulte et deux, vous êtes consentant. Et là, il n'y a pas de jugement. Chacun vit sa vie. Mais dès lors qu'il n'y a pas de consentement, quand on a dit non, là, ça devient problématique.
Quand on discute, par exemple, avec des potes, moi, ça m'arrive très souvent, on se rend compte que de plus en plus ne savent plus comment draguer parce que déjà, c'est difficile pour eux, parfois, de draguer quelqu'un.
Bien sûr.
Ils n'osent plus envoyer certains messages ou dire certaines choses. Ils n'osent plus plaisanter. On n'est pas en train de desservir la cause quand on tombe là-dedans. Limite, on va en faire des frustrés,
non,
en fait,
moi,
les gars.
Non, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire qu'en fait, je trouve ça méprisant pour les hommes, en fait. Ça veut dire que les hommes sauraient pas draguer subtilement. Les hommes, leur seule manière de draguer.
Il y a des bourrins aussi, hein.
Ouais, il suffit d'apprendre à draguer. Comment on fait, nous? Est-ce que nous, on arrive et on met une main aux fesses des hommes en disant, alors mon coco, à ces petites jeans, ça t'en fait une belle paire? Enfin, non, je veux dire, on se comporte pas comme ça. Donc, à un moment, est-ce qu'on pourrait juste être des personnes civilisées? Peut-être que la séduction, elle pourrait passer aussi par des paroles, par l'intellect et qu'on n'est peut-être pas obligé d'agripper les gens alors qu'ils ne sont pas d'accord pour cela.
J'ai trouvé des phrases, par exemple, qui apparaissent sur certains sites internet comme des phrases sexistes que les femmes ne veulent plus entendre. T'as tes règles ou quoi ? Pour vous, sexiste ?
Moi, je crois qu'il y a plein de phrases pour lesquelles tout dépend du contexte. Hier, par exemple, je suis rentrée, j'étais vraiment épuisée après le Grenelle des violences conjugales. Je rentre chez moi hyper tard, je suis fatiguée, j'ai pas envie de parler, je jette mon sac et voilà. Et je me dis, mais t'as tes règles ou quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et c'est une forme de provocation pour plaisanter. Par contre, dire à une femme dans une réunion de façon hors de propos quand on ne la connaît pas parce qu'elle est pas contente sur tel ou tel sujet ou qu'elle fait une proposition, t'as tes règles, là, c'est sexiste parce que c'est la ramener à sa condition de femme. Ça dépend vraiment du contexte.
Et un type qui nous appelle princesse dans la rue, par exemple. C'est du harcèlement de rue, ça ?
Ça dépend encore une fois du contexte.
Mademoiselle, t'es charmante.
Moi, ça m'arrive dans la rue de dire à des femmes que je les trouve très élégantes. Hier, j'ai vu une femme qui était magnifique, elle a une espèce de porte-cigarette à l'ancienne, voilà, avec un style un peu particulier. Je lui dis, voilà, je me permets de vous dire que vous êtes absolument ravissante dans cette tenue. Elle me dit, oh, merci, comme c'est adorable.
Mais un mec qui aurait dit ça.
Moi, un type dans la rue qui me dit, vous êtes absolument ravissante, je me permets de vous le dire, et qui trace son chemin, mais je trouve ça mignon. C'est pas ça le harcèlement de rue. Le harcèlement de rue, c'est ce qui humilie, intimide les femmes, entrave leur liberté de circuler, et vous avez une manière de dire. Vous êtes absolument charmante, voilà, et vous êtes absolument charmante, qui est collée à vous et qui vous répète ça 18 fois. Vous êtes charmante, vous êtes charmante, vous êtes charmante.
Mais donc,
et qui part pas, là, ça devient du harcèlement.
Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y a parfois des phrases maladroites, finalement? Ça peut être de la maladresse. Comment on fait pour différencier? C'est hyper compliqué. Je vous en parle parce qu'on en a parlé dans l'open space tout à l'heure. Et chacun place le curseur différemment selon les personnes avec qui on parle.
Quand on a un doute, on s'abstient. N'importe quel homme, quel que soit ce à quoi lui-même ressemble, se sent obligé de donner son avis sur le physique des femmes.
On le fait aussi quand même,
non,
entre nous,
beaucoup moins. Un homme du gouvernement qui va annoncer quelque chose, regardez les commentaires sur les réseaux sociaux, ce ne sera pas sur son physique. Une femme, ça va commencer par « Oh, bah, elle a les genoux de travers, oh, bah, elle n'est pas en forme, oh, bah, elle a gros aussi, bah non, elle a maigri, oh bah elle est plate, oh bah non, je la trouve bien, et toi, non, moi, pas bien. Moi, j'avais posté une vidéo sur je sais plus quoi, je vois qu'il y a 44 commentaires, je reviens en soirée, je me dis, bon, je vais regarder les commentaires, que pensent les gens de cette annonce politique. Les 44 commentaires, c'était des débats pour savoir si j'étais, je cite, bonne ou pas. Des hommes que je ne connais pas qui débattaient entre eux pour savoir s'ils me trouvaient à leur goût ou pas. Enfin, d'abord, j'aurais rien proposé à personne. Et ensuite, on ne fait pas ça à des hommes politiques.
Est-ce qu'on n'en a pas joué aussi de ce côté un peu séducteur parfois? Pour les femmes.
La politique, ça passe aussi par la séduction.
Beaucoup, hein.
Et je pense que tout le monde en joue, qu'on soit une femme ou un homme.
Ouais.
La politique, c'est l'art de convaincre les gens et de les associer, de les embarquer. Donc, il y a parfois une part de séduction dans la persuasion.
Il y a de plus en plus de groupes féministes. Il y en a un que tout le monde connaît, ce sont les fémènes. Est-ce que vous pensez que c'est bien de montrer ses seins pour se faire entendre?
Alors moi, j'ai pas de jugement de valeur à porter sur tel ou tel. J'ai toujours dit.
C'est un peu contraire au féminisme quand même, parce qu'on utilise le corps comme objet sexuel.
Alors
en quelque
ça,
sorte,
la définition
non
du féminisme, vous savez, moi, j'ai toujours dit depuis que je suis engagée que c'était pas à moi de délivrer les brevets de féminisme. Et d'ailleurs, ça m'agace profondément les féministes qui elles-mêmes donnent les bons et les mauvais points de féminisme. Alors elle est pas, elle est, elle oui, elle non. Néanmoins, que les fémènes montrent leur sein, si c'est ce qu'il faut faire pour faire passer des messages, je trouve ça positif. Et les fémènes, pour moi, je suis désolée, mais elles ont un certain courage. Le président de la République, plus exactement, a nommé Ina Shevchenko, la leader des fémènes, au Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes du G7. Elle vient d'un pays dans lequel il n'y a pas de droits des femmes. Et quand des gens disent, oui, le gouvernement fait beaucoup de discours, etc., Ina Shevchenko, elle dit, attendez, moi, je suis dans un pays où on n'a pas le droit de faire des discours sur les droits des femmes. Donc même si c'était que ça, ça m'irait déjà. Heureusement qu'elles sont là.
Marlène Schiappa, merci d'être venue sur France Bleu. De nombreuses mesures vont être mises en place pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Concrètement, on pourra porter plainte à l'hôpital. C'était pas le cas.
Oui.
Le bracelet d'éloignement sera demandé avant même la condamnation. C'était pas le cas. L'autorité parentale sera suspendue automatiquement. Il y aura des procureurs spécialisés dans les violences conjugales. Il y a encore plein de choses à faire. On compte sur
l'État
vous, évidemment.
L'État sera garant pour le relogement des femmes
aussi
victimes de
violences conjugales. Aussi très important. Dans la durée. C'est pas juste un logement.
Exactement.
D'urgence.
Se reconstruire, c'est primordial.
Elles s'appelaient Sylviane, Karine, Stéphanie. Elles sont mortes sous les coups de leur mari. C'est triste, violent et révoltant. Alors partagez ce numéro qui peut sauver des vies. 3919, que vous soyez victime ou témoin de violence. Appelez, balancez, sauvez. Merci Marlène Schiappa.
Merci à vous.
Merci de votre fidélité sur France Bleu. Si vous voulez découvrir l'entretien dans son intégralité, 40 minutes avec Marlène Schiappa, francebleu.fr. Passez un bon week-end. Salut.